BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
BFM Bourse en service concentré tout au long de l'été de 17h28. Il est 17h28 jusqu'à la clôture et au-delà, quasiment jusqu'à 18h. Chaque soir, une grosse demi-heure autour de la clôture pour débriefer les grands enjeux du moment. Donc en service concentré, mais continue hein, tout au long de l'été, on sera là à cette heure-ci et ce jusqu'au 24 août. Ensuite, à partir du 24 août, toutes nos émissions reprennent leur rythme habituel. On est content de vous retrouver avec nos experts. Le CAC 40 à 6 minutes de la clôture, là, est en petite hausse, presque une séance pour rien. Il gagne gentiment 0,1% à 8377 points. Alors, Wall Street aussi est en hausse. Hein. Le Nasdaq, comme le S&P, gagne chacun 0,3%. Thibaut François est avec nous, cofondateur associé de Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Tommy Nouziège aussi nous accompagne, analyste pour Zone Bourse qu'on va retrouver dans un instant. Et Romain Daubry que j'aperçois d'ores et déjà. Il est prêt dans les starting blocks, Romain. Comme souvent, Romain Daubry, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Ça va Romain, on est content de vous retrouver également. On va parler des valeurs du jour, de celles qui vont animer la séance de demain aussi, parce que demain les publications vont démarrer sur le CAC 40. Tout à l'heure on parlera de Publicis qui va demain matin donc ouvrir le bal des publications du CAC 40. Pour l'instant Publicis gagne 2%, on parlera aussi d'ASML qui a publié, alors qui recule, hein, qui était en hausse ASML mais qui là recule de 0,3%. D'abord Thibault, la tendance globale sur les marchés là en cette mi-juillet, notre CAC 40 est en petite hausse, avec des cours du pétrole qui, alors, ont beaucoup progressé. C'est vrai, le retour de la guerre en Iran, mais Donald Trump explique cet après-midi que l'Iran veut à nouveau négocier. Donc, le pétrole repart un peu à la baisse. C'est toujours le même scénario. On est à $84, là, sur le pétrole.
Ouais, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, on fluctue en fonction du discours de Monsieur Trump. On a repris quand même $10 sur 3-4 séances sur le pétrole. On est autour de 85, on est descendu jusqu'à $75 la semaine dernière. Donc toujours pareil, on repart en Iran, donc le marché est sous tension, tension forte, mais finalement assez peu de volatilité, je trouve. Je trouve que le marché tient plutôt bien. Le marché prend l'habitude, on va dire, du rythme de Monsieur Trump. Donc pour l'instant, il se passe pas grand chose. C'est vrai qu'en plus, les dernières publications américaines sont plutôt bonnes, notamment les banques, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'est vrai que le marché est quand même plutôt stable malgré, on va dire, la reprise en Iran. Mm-hmm. On a eu les chiffres de l'inflation hier qui étaient plutôt bons, c'est-à-dire plutôt en baisse. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais alors,
et encore aujourd'hui, on va en reparler, les prix de la production aussi sont inférieurs aux attentes. Ça, c'est des soutiens au marché, c'est vrai.
Ouais, c'est un petit soutien au marché. Alors même si c'est les chiffres de juin, hein, vu que la guerre a fini en juin, bah, le marché a baissé, le marché en tout cas pétrolier a baissé, donc moins de pression sur les prix et donc les chiffres de juin sont plutôt au-dessus des attentes, donc ça veut dire en dessous en termes d'inflation, ça veut dire que potentiellement la Fed pourrait baisser ses taux, en tout cas c'est ce que joue le marché, mais en tout cas voilà, le marché tient plutôt bien je trouve malgré l'environnement qui est pas forcément exceptionnel,
c'est
notamment
vrai.
Animé par Monsieur Trump.
Voilà, c'est ça, le retour des allers-retours de Donald Trump sur l'Iran, en tout cas les déclarations va-t-en-guerre et puis ensuite un peu plus soft, on a un baril qui flirte avec les $84 là, le baril de Brent à $83.90 à l'instant. Tommy, on vous retrouve, Tommy Nouziège pour Zone Bourse, bonsoir Tommy. En fait, la bonne nouvelle depuis hier, c'est que l'inflation américaine dans les chiffres publiés confirme son net ralentissement. Hier, on avait eu les prix à la consommation sous les attentes, même plus fort ralentissement de ces prix à la consommation d'un mois sur l'autre depuis 2020, c'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est confirmé par les prix à la production également sous les attentes. On les attendait en hausse de 0,6% en mai d'un mois sur l'autre. Ben, finalement, ce n'est qu'une hausse en juin de 0,6%. Finalement, ce n'est qu'une hausse de 0,3%, donc deux fois moindre que ce qu'on craignait. Cette thématique inflation, le fait que le marché révise à la baisse du coup ses anticipations de hausse de taux de la Fed. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir parier dessus longtemps ou au contraire le retour de la guerre en Iran fait que ce sont des données de juin et que ces données de juin finiront par passer?
Effectivement, comme vous le dites Guillaume, premier recul de l'inflation depuis 2020, donc c'est dû au repli des prix de l'énergie justement ces derniers mois, donc c'est très positif. D'ailleurs le PPI va dans le même sens que le CPI, donc voilà, ça confirme un peu ce mouvement. Avant ces statistiques d'inflation, justement, on commençait à se demander si la Fed n'allait pas remonter ses taux dès le mois de juillet. Je crois qu'au début de la semaine, on avait 40% de chances que ça se réalise. Bon, au final, ces publications de CPI et PPI permettent de gagner du temps. Donc, c'est quand même très positif. Voilà. Et nous, notre scénario principal, c'est globalement qu'il y a un statu quo sur le reste de l'année. Ces données sont quand même positives pour l'économie. De notre côté, on a un Kevin Warsh qui est quand même très hawkish. Donc, c'est vrai qu'il a d'ailleurs dit devant le Congrès qu'il était... que c'est pas parce que l'inflation commence à ralentir que la mission est accomplie, qu'il fallait s'asseoir dessus. Donc il faut voilà. Donc il y a toujours ces c'est cette possibilité de réajustement, mais voilà, c'est quand même plutôt positif pour l'économie, et c'est pour ça aussi que les marchés tiennent bien.
Oui, c'est vrai, les marchés qui tiennent, donc malgré la hausse du pétrole, parce que les chiffres d'inflation du mois de juin sont hyper encourageants aux États-Unis. Néanmoins, Thibault, imaginons le détroit d'Hormuz ne rouvre jamais comme il était ouvert avant. Imaginons, enfin, on se demande même si c'est pas désormais le scénario le plus probable. Une réouverture toujours instable, voire un jour un péage. Imaginons que ça ne redevienne jamais comme avant. Quel impact ça aurait sur les marchés ?
Ah déjà, ils vont essayer de trouver une autre sortie. C'est a priori ce qu'ils ont commencé à imaginer. Mais effectivement, ça va rester sous pression. Le pétrole. La semaine dernière, quand c'était la fin de la guerre entre guillemets, on était quand même 35 ou 40% au-dessus des prix de début d'année. Du pétrole. Donc ça veut dire que le marché s'attend pas à ce que on revienne à la normale tout de suite. Les prix, à mon avis, sont durablement élevés. L'inflation est, à mon avis, durablement élevée. Et je pense que la stratégie de Monsieur Trump de baisser ses taux, en tout cas pour relancer l'économie américaine, pour accélérer l'économie américaine, notamment pour la deuxième partie de son mandat, je pense que c'est un peu compliqué, à mon avis, à court terme. Voilà. Donc, pour l'instant, je vois bien le pétrole quand même rester à un niveau assez élevé et une tension assez forte d'un point de vue géopolitique.
On parlera de la clôture, on va la vivre dans un instant, mais on peut d'ores et déjà retrouver Romain Daubry pour parler de ce pétrole, justement. Le baril de Brent actuellement à $83.60. Alors, c'est vrai qu'il évolue beaucoup en fonction des déclarations de Donald Trump. On se retrouve à la même situation qu'il y a un peu plus d'un mois avant le cessez-le-feu. Ben voilà, c'est le retour de la guerre. Il l'a annoncé au Congrès. Nous sommes à nouveau en guerre avec l'Iran. D'un point de vue graphique et technique, quel potentiel à la hausse ou au contraire peut-être à la baisse, voyez-vous, sur le cours du pétrole par rapport aux $83 de cet après-midi, Romain ?
On a toujours un signal haussier qui a été déclenché maintenant la semaine du 6 juillet, la semaine dernière, avec le débordement de ce niveau clé de 74,80. La cible de cette impulsion haussière, elle se situe entre 96 et 98. On a flirté avec ce niveau récemment, on retrace un petit peu. Tant qu'on est au-delà de 80,60 sur le Brent, le mouvement reste aussi, à mon avis, donc on peut avoir des retracements ponctuels, mais il y a des risques de réplique à la hausse à nouveau. Encore une fois, tout est très lié à des effets d'annonce, vous le disiez. Et donc, pour l'instant, ça retrace un peu. Mais encore une fois, je pense qu'il faut rester vigilant. Et le message graphique, en tout cas, il est assez clair. Il reste haussier.
C'est la clôture là sur les marchés en Europe. Ça y est, 17h35, vous restez avec nous. Romain, Thibault, Tommy, le CAC 40 termine en petite hausse. Donc ce soir, on est ensemble en direct. Le CAC gagne 0,19 en clôture, 8382 points. La plus forte hausse, c'est Stellantis, plus 3,5. On a le secteur du luxe aussi parce que Richemont a publié au-dessus des attentes. C'est une bonne surprise ça pour Richemont. Le titre gagne d'ailleurs 6,5% ce soir en clôture. Richemont et entraîne avec lui tout le secteur du luxe. Kering gagne 3,6%. LVMH gagne 2,6%. Hermès aussi progresse de 2,5. On reviendra en détail sur la publication de Richemont. Ce sera dans un instant. Les autres valeurs à suivre, il y a SML aussi qui a publié ses résultats. Alors ce titre à SML, il progressait bien et finalement il termine à -0,4 malgré la révision à la hausse de ses perspectives pour la suite. On y reviendra aussi. STM à Paris perd 4% en clôture. Que vous dire d'autre que les banques américaines ont publié hier, c'était supérieur aux attentes. Ça l'est encore aujourd'hui du côté des autres publications. Par exemple Morgan Stanley qui a annoncé ses résultats gagne 1% en ce moment à Wall Street. BlackRock aussi a publié et gagne un peu plus de 7%. On va débriefer cette séance bien sûr et vous aider à anticiper la suite. Demain, Publicis qui va publier, ce sera le coup d'envoi des publications sur le CAC 40 avec donc Tommy Douziège pour Zone Bourse et Thibault François qui est toujours avec nous pour Fastea. On peut démarrer, allez, un petit coup d'avance, ouais, allons-y sur Publicis demain matin qui va publier. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Quel là ça donnera à cette saison de publication à la Bourse de Paris ?
Bah écoutez, Publicis a l'habitude de faire des bonnes publications et d'ailleurs le marché l'anticipe. Publicis se tient plutôt très bien boursièrement parlant. Ils ont fait un premier trimestre qui était très bon, au-delà de 4,5 de croissance organique. Le marché attend encore une fois au-delà de 4,5 de croissance organique sur le deuxième trimestre. Ils ont confirmé leur objectif à la fin du T1, ils ont confirmé leur objectif annuel d'une croissance entre 4 et 5% en organique. Donc tout ça va plutôt dans le bon sens. Je trouve que le consensus est quand même assez optimiste. C'est-à-dire que c'est une activité qui pourrait se faire attaquer aussi par l'intelligence artificielle, comme beaucoup de secteurs. Et je trouve que Publicis sort un petit peu du marasme qui est sur lequel on est sur pas mal de sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle. Donc le marché y croit. Et c'est vrai que d'un point de vue publication, pour l'instant, Publicis tient très très bien. C'est vrai qu'en termes de rentabilité risque, aujourd'hui, je trouve que le marché paye bien Publicis. Et il faudra que la publication soit vraiment assez nettement au-dessus des attentes pour que le consensus et le marché repayent encore Publicis dans les prochaines semaines.
Romain, graphiquement, vous la sentez comment avant sa publication de demain matin, Publicis ?
Mais effectivement, depuis quelques temps, elle a reconstruit Publicis, notamment depuis le début du mois de juin, où elle a débordé cette résistance clé à 86. Elle s'articule autour depuis, effectivement. En revanche, on mesure aussi l'intérêt des opérateurs et le ratio d'options sur l'échéance en cours et sur l'échéance suivante indique que sur Publicis, les opérateurs sont effectivement très, très optimistes. Donc, attention à des déceptions. On sait que quand ces ratios sont un peu extrêmes, comme c'est le cas sur Publicis ici, eh bien, il va falloir ne pas décevoir. Donc, tant qu'on est au-delà de 86, ça reste haussier. La structure haussière s'est remise en place et on peut viser des niveaux situés entre 96 et 101. Mais attention au contre-pied à court terme sur le titre et au retour sous ce niveau de 86 qui est vraiment un niveau pivot.
Demain matin, la publication, donc, Publicis ce soir gagne 2% dans le secteur du luxe. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Aussi des publications avec Richemont. 6,5% de hausse ce soir en clôture Richemont. Tommy, on vous retrouve chez Zone Bourse. Est-ce que, alors voilà, on a tout le secteur qui prend la roue de Richemont et qui progresse ce soir. Hermès gagne 2,4%. LVMH aussi gagne 2,6%. Dans un instant, je vous demanderai si c'est de bon augure pour nos groupes de luxe français ou si c'est une particularité Richemont. Déjà, cette publication et ce plus 6,5, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'il faut continuer de renforcer Richemont maintenant, Tommy?
En tout cas, on peut saluer la solidité de la publication. Ils sont bien au-dessus du consensus. On attendait à peine 11% de croissance. Je crois qu'on est tombé à 20% à taux de change constant. Donc, c'est quand même une croissance bien au-delà de ce qu'attendait le marché, notamment avec cette résilience du hard luxury et de la joaillerie justement de très haut de gamme. Donc, c'est très positif, notamment pour les marques Cartier et Van Cleef. Voilà. Donc, nous, on est positionné sur des valeurs aussi. On s'intéresse à du Hermès, on s'intéresse à du Ferrari. Richemont aussi, mais on la trouve déjà un petit peu chère. Il faut savoir qu'elle est quand même 20% plus chère qu'un LVMH. Donc voilà, on est relativement neutre sur le dossier aujourd'hui.
Oui, Richemont, dont les ventes surpassent les attentes, portées par l'essor des ventes de bijoux. Un des rares acteurs du secteur a échappé au ralentissement actuel de l'activité, parce qu'on est dans le hard luxury en l'occurrence. Donc c'est une exception pour vous, Richemont, ou c'est un bon signe pour l'ensemble du secteur du luxe qui, dans son ensemble, c'est vrai, a pris la route Richemont ce soir en clôture, Thibault?
Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle pour un dossier comme Hermès. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas des indications très fortes pour un LVMH ou pour un Kering aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que pour un Hermès, c'est plutôt une indication positive. Le marché aujourd'hui a vendu tout le secteur du luxe sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Même un Hermès perd 15 ou 20% je crois depuis le début de l'année, ce qui est beaucoup, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et je pense par contre on pourrait avoir une bonne surprise sur Hermès, en tout cas une publication rassurante sur le dossier Hermès, un petit peu comme vient de le faire Richemont. Mais par contre, c'est vrai que sur les indications sur un LVMH ou un Kering, je serais plus mesuré aujourd'hui. J'ai pas forcément de visibilité en tout cas sur le deuxième trimestre. Rappelons que le deuxième trimestre, on était en pleine guerre Iran, et donc avec des zones qui étaient plutôt attaquées. Et je pense que vraiment la publication de Richemont, c'est vraiment une excellente publication vu le scénario géopolitique qu'on a eu sur le deuxième trimestre.
Oui, Richemont qui insiste sur la bonne santé, la dynamique des consommateurs américains d'ailleurs. Et oui, cette fameuse économie américaine.
Japonais aussi.
Et japonais également. Tommy, pareil, est-ce que pour vous, on peut faire une lecture croisée et se dire, ah, ce qu'annonce Richemont, c'est bon pour Hermès, moins pour LVMH et Kering, ou vous avez un avis différent?
C'est vrai qu'elle a un positionnement assez unique par rapport aux autres françaises qui sont très, justement, sur d'autres segments de marché et beaucoup moins exposées aux bijoux en pourcentage de chiffre d'affaires. Mais on pourrait dire que ça devrait toucher moins en tout cas, le ralentissement du luxe touche moins forcément les gros portefeuilles, ceux qui ont le budget de pouvoir se payer un sac Hermès, par exemple. Et donc, Hermès a toujours été plus résiliente, justement, par rapport à un LVMH ou un Kering. Donc nous, on est plus positif effectivement, comme Thibaut, sur Hermès que sur les autres. Et même sur Ferrari aussi, je trouve qu'on peut la catégoriser comme un dossier luxe, où il y a une très bonne valorisation, qui est, voilà, le titre est revenu sur une valorisation qui est redevenue un peu raisonnable. Donc ça offre un point d'entrée.
Oui, vous leur en voulez pas, Ferrari, pour leur nouveau véhicule électrique là, qui fait tant polémique, Tommy? Pour vous, c'est de l'écume?
Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Donc,
Ouais. Romain, c'est l'arbitre des élégances, Romain, avec son scalp graphique technique. Il est capable de nous dire le potentiel à très court terme, en tout cas, selon les seuils. Est-ce qu'on s'approche de seuils importants, intéressants sur Richemont, cette hausse ce soir de 6,5%? Est-ce que ça casse du potentiel ou ça, au contraire, vient former un nouveau potentiel pour la suite, Romain?
Ça vient former un nouveau potentiel. Si on dézoome un peu, Richemont, c'est un titre qui a évolué dans un grand trading range depuis février 2025, entre 127 et 164 et 180. Le fait est que le titre a débordé ce niveau de résistance à la mi-juin et que l'accélération du jour permet de s'éloigner de ce niveau de support et donc de confirmer la sortie d'un grand trading range au sein duquel le titre a évolué donc depuis plus d'un an. Donc la prochaine cible, c'est 208 et les extensions, elles peuvent mener à 233,30 si on duplique le range précédent. Donc c'est un potentiel haussier complémentaire tant qu'on est au-delà de ce niveau de 180 pour Richemont.
Oui, Richemont qui n'évoque pas vraiment le marché chinois. Il se trouve qu'en Chine, on a une petite déception aujourd'hui. La croissance chinoise, elle a été publiée du deuxième trimestre sous les attentes. Thibaut, à 4,3% la croissance chinoise, on l'attendait à 4,5%. On voit l'industrie qui cartonne, les exportations progressent de 27%. Et c'est sur la consommation intérieure que le bas blesse toujours en Chine, manifestement.
Ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Et c'est depuis, je crois, la plus belle, je crois, depuis 2021 ou 2022, je crois qu'en termes de croissance, c'est ce qu'il y a de plus bas. Oui. Pas de relance aujourd'hui. Vraiment une situation trimestrielle qui est plus compliqué sur la partie chinoise.
Ça va peut-être encourager une relance au deuxième semestre ou pas.
Peut-être, mais c'est vrai que je pense qu'il y a d'autres zones géographiques qui sont plus porteuses actuellement. Mais c'est vrai que la Chine aujourd'hui ralentit assez nettement.
Oui, la Chine, quel regard, la croissance sous les attentes, Tommy?
Oui, effectivement, la Chine, ça fait quand même pas mal de trimestres qui sont en dessous et qui ralentissent. Et on voit qu'ils occupent de moins en moins de poids dans les indices émergents. Parce qu'ils sont encore catégorisés comme marché émergent, même si le pays est deuxième puissance économique mondiale. Donc aujourd'hui, c'est énormément porté par la Corée du Sud, par Taïwan, et beaucoup moins la Chine. Donc c'est vrai qu'on observe ce ralentissement. On est un peu moins, on a sous-pondéré dans notre portefeuille Asie la Chine par rapport au reste. Donc c'est vrai qu'on est plutôt attentif.
Même s'il y a de plus en plus d'IPO de valeur tech, Tommy, on voit par exemple DeepSeek qui, d'après Bloomberg, pourrait s'introduire cette année en bourse. DeepSeek, oui. Et puis CXMT aussi, le principal fabricant chinois de puces mémoire, qui envisagerait une introduction en bourse à Shanghai. Ce serait la plus grosse pour la Chine continentale depuis 2010. On en voit de plus en plus des IPO dans le segment tech.
Tommy. Oui, tout à fait. C'est vrai que le marché de la mémoire ou également DeepSeek, c'est vrai qu'on voit qu'ils captent de plus en plus de valeur. Si on regarde, c'est à peu près 15% des dépenses marketing auprès de hyperscalers chinois, auprès de LLM chinois, pardon. C'est 15% des dépenses, voilà, mais 80% des tokens. Donc au final, on voit bien qu'ils coûtent beaucoup moins cher d'exporter voilà ces LLM en Chine plutôt que les faire travailler aux US. Voilà, donc on est effectivement ces opérateurs chinois apportent beaucoup de concurrence au marché européen et américain et on les surveille de près.
Oui, de plus en plus, ceux qui veulent investir dans la tech pourront le faire. Alors, il faut oser, hein, c'est technique et complexe, mais le faire en Chine. Donc, l'introduction annoncée ou envisagée de CXMT, Thibaut, principal fabricant chinois de puces mémoire, et même DeepSeek, dès cette année, pourrait envisager de s'introduire en bourse. DeepSeek.
Ouais, mais en fait, c'est les Américains et les Chinois sont quand même extraordinaires, c'est qu'ils réussissent à lever du cash pour leur boîte, à étoffer leur marché, mais le marché en général. Donc il y a une vraie activité, proactivité autour du business et autour des entreprises en bourse. Et je trouve que c'est un chemin qui est extrêmement intéressant pour le moyen terme. Que ça soit pour le marché américain et aussi pour le marché asiatique, le marché coréen qui est en train d'exploser aussi sur la tech, on le voit bien. Et c'est vrai que c'est des leçons aussi pour le marché européen qui se renferme un petit peu sur lui-même et notamment d'un point de vue introduction en bourse. Et
on a le slip français là.
Absolument qu'on.
On a le slip français depuis hier.
Oui, c'est
3%
vrai.
3% de hausse encore aujourd'hui.
Il y a trop de retraits de bourse par rapport aux introductions en bourse.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on mériterait d'avoir plus d'entreprises européennes sur le marché boursier et il faut absolument qu'on aille dans ce sens-là.
Le CAC ce soir, on vous le rappelle, il est 17h47. La clôture, c'était il y a un peu plus de 10 minutes. Il a gagné 0,19%, 8382 points. Les autres marchés européens, mitigés. L'Eurostock 50 a même perdu, lui, 0,2%. On reste dans la tech avec notre champion européen, pour le coup, ASML, qui a aussi publié au-dessus des attentes, qui révise à la hausse ses perspectives annuelles. Le segment mémoire d'ASML, Thibault, devrait voir son chiffre d'affaires augmenter cette année de 75%. Le marché a la dent dure. ASML recule quand même à Amsterdam de 0,4% ce soir.
Ouais, à quelques prises de bénéfices, mais c'est vrai que ça montait un peu plus tout à l'heure. On prenait 7-8% tout à l'heure. Quelques prises de bénéfices en fin de journée. On l'a vu aussi sur l'ensemble du secteur. D'ailleurs, il y a STM qui finit en baisse aussi à Paris. Mais par contre, la publication est exceptionnelle. Ça veut dire que le trend aujourd'hui est lancé. 26-27, c'est presque plus un sujet. La dynamique est lancée. Ils font 20% au-dessus des attentes, en tout cas 20% au-dessus du T2 l'année dernière ASML. La dynamique est extraordinaire. Donc ça c'est super. Et là, par contre, faut féliciter. C'est un champion européen, clairement, devant les Américains, devant les Chinois, donc génial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques prises de bénéfices. J'ai l'impression que le marché, quand même, essaye de voir un petit peu, en termes de publication, ce qui a très très bien marché et ce qui pourrait être un petit peu décevant en termes de publication, et payer peut-être, on va dire, des sociétés qui n'ont pas très bien marché sur le premier semestre et qui pourraient annoncer moins pire que prévu en termes de publication. On le voit d'ailleurs dans le palmarès du CAC 40, des Stellantis, des Kering, des Capgemini qui sont quand même en sous-performance massive depuis quelques trimestres, qui sont un petit peu payés ces dernières heures.
Stellantis, c'est frappant, hein, depuis plusieurs séances, on est à 3,6 encore de hausse ce soir pour Stellantis. Donc peut-être une saison de publication où le marché sera prompt à sanctionner les déceptions, mais avoir du mal à applaudir les bonnes surprises, quoi, parce que les bonnes surprises, quand ces acteurs-là ont déjà été payés, pricées, ouais, elles sont déjà pricées. Mmh. C'est comme ça que vous interprétez la baisse ce soir d'ASML, un peu dur quand même, le titre progressait ce matin, Tommy, puis finalement termine sur un petit moins 0,4 en clôture, alors que la publication est quand même assez brillante. Comment vous regardez ce moins 0,4, Tommy, ce soir?
Oui, effectivement, on peut dire que ça a été anticipé par les 80% de hausse depuis le début de l'année, 70-80% de hausse depuis le début de l'année. Donc, ils avaient anticipé un petit peu cette reprise d'activité, cette accélération de l'activité. Là, on voit que le carnet de commandes pour l'EUV, l'extrême ultraviolet, donc les technologies les plus avancées d'ASML, donc le carnet de commandes, il est quasiment plein pour 2027. Il commence déjà à se remplir massivement pour 2028. Et on voit qu'il y a aussi la production qui va suivre. Ils vont augmenter leur capacité de production de 30% en 2027 et potentiellement 30% en 2028. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Quand la demande suit, l'offre suit, et on peut voir son chiffre d'affaires augmenter de 30% et dans les prochaines années. Donc c'est quand même très très positif. Et malgré la prise de bénéfices à court terme, nous on reste positionnés sur le secteur et je pense que c'est une opportunité pour renforcer à nouveau.
C'est laquelle votre pépite tech préférée en Europe? C'est ASML ou vous en avez une autre en tête, Tommy?
On en a d'autres. On a aussi, on est positionné sur la petite sœur ASMI, ASM International, qui sont sur les DUV, d'autres technologies très avancées aussi. Ils sont leaders sur leur niche. C'est même plus une niche maintenant, mais ils sont leaders sur ce positionnement. C'est deux entreprises souveraines européennes, néerlandaises. Bien positionné chez FinDollar.
On peut rester dans la tech un instant parce qu'aux États-Unis, il y a une valeur qui s'envole de 16% là ce soir. Pourquoi? Parce que Stripe et Advent ont apparemment fait une offre avec une prime pour cette offre de 28% sur le dernier cours de bourse. C'est PayPal. PayPal, donc, qui fait l'objet d'une offre à 53 milliards de dollars. Manifestement, PayPal gagne 16%, Tommy, ce soir. Est-ce qu'il faut accompagner cette hausse?
Une bonne partie de la hausse a été faite. C'est vrai que l'offre est à 60$, donc on pourrait dire qu'il y a encore de la marge un petit peu pour aller chercher les 60$. Mais le fait que ce soit en dessous, c'est peut-être aussi un signal que cette opération ne se passe pas, ou alors qu'il n'y a pas de relèvement d'offres. Faut dire que c'est une belle offre par rapport au dernier cours de clôture. Mais si on regarde il y a quelques années, PayPal, ça se payait $300 l'action en 2021, $78 il y a un an. Donc c'est quand même un beau timing pour les acquéreurs justement de rentrer sur PayPal. En plus, ils ont sécurisé 50 milliards auprès des banques. Donc Stripe et Advent pour faire cette acquisition, donc c'est positif. Moi, j'irai pas. Je suis plutôt neutre à court terme. Ouais. Je pense qu'il y a pas grand-chose à aller chercher. Par contre, il y a des très belles opportunités équivalentes en Europe à Stripe justement, où ils font de l'intégration verticale. Je pense à Adyen, à nouveau aux Pays-Bas. Très belle valeur. J'irais plutôt sur ce genre de valeur.
Une idée. On vient juste à l'analyse graphique. J'avais oublié de demander à Romain son point de vue sur ASML. Puis dans un instant, on parlera de Vusion aussi, qui s'est distingué, mais vraiment à la baisse. Sur ASML, Romain, quel potentiel après la petite baisse ce soir de 0,4%?
Alors, il y a déjà un aspect comportemental. En fait, on avait un ratio put call qui indiquait dès le début de la semaine que les opérateurs étaient quand même assez pessimistes, assez prudents, malgré le parcours récent du titre. Il faut dire qu'il y a eu des retracements un petit peu violents. Donc, il y a un phénomène de contre-pied à l'ouverture après la bonne publication. Donc, on ouvre en forte hausse. Maintenant, on est sur le titre depuis la mi-juin dans un trading range. On consolide entre 1498 et 1691. C'est le plafond de verre, le niveau contre lequel les opérateurs prennent du bénéfice systématiquement depuis un peu plus d'un mois maintenant. Donc, pas de structure de retournement, mais une pause assez marquée après un très gros parcours haussier, 1498-1692.
Ce soir, le CAC donc gagne 0,19% en clôture. À Wall Street, on est en hausse très timide, symbolique. Le S&P, à l'instant, gagne à peine 0,1%. Vusion, alors ça, c'est une valeur qui intéresse beaucoup le particulier. On a régulièrement des questions, des messages, Thibault, sur ce titre Vusion. Bah là, c'est pas une bonne nouvelle pour les actionnaires, puisque le titre termine à moins 8% ce soir. Alpha Value a débuté sa couverture de Vusion à vendre, là, comme ça, direct, cash, vendre.
Ouais, vendre, ça marche. L'entreprise est ultra volatile, on le sait depuis, on va dire, fin d'année dernière. C'est le contrat Walmart qui se termine à la fin d'année qui est un petit peu le catalyseur ou pas d'ailleurs du titre. Alpha Value, ils mettent en avant que 2027 il y aura pas de croissance. Ça se finit Walmart, et donc le retour de la croissance va être compliqué. En tout cas, la croissance va être compliquée sur 2027. On est d'accord. On le sait depuis des mois, on est d'accord. En fait, le problème, il est pas là. C'est que est-ce qu'ils vont être en capacité effectivement à augmenter leur carnet de commandes sur 2027? Alors pour l'instant, ils essayent, ils font le maximum. Je trouve que en tout cas, le carnet de commandes se remplit. Ils ont annoncé encore un contrat avec Decathlon et 700 magasins qui vont être ouverts. Et c'est là où on a un marché qui est extrêmement positif et extrêmement négatif sur le dossier. On a Berenberg il y a 15 jours qui sort une note avec 220 d'objectifs où ils sont à l'achat fort. 15 jours après, on a Alpha Value qui est à vendre sur le dossier avec 75 ou 77 d'objectifs. Donc vous voyez, on a un marché qui est extrêmement volatile et un spread en tout cas de BPA qui est extrêmement fort et élevé sur 2027. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En plus, c'est un titre volatile. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vendeurs à découvert sur le titre. Les hedges sont à fond dessus. Donc on a moins 6 ou moins 7% du capital qui est vendu sur Vusion. Donc à la moindre mauvaise nouvelle, c'est vendu massivement. On a moins 11, moins 12 tout à l'heure sur le dossier. Et on va voir si les dirigeants vont être en capacité de rassurer à la fin du mois avec la publication du deuxième trimestre. Ce qui va surtout être surveillé, parce que 2026, on a peu de doutes sur 2026, ça devrait bien se passer. C'est surtout ce qu'on va surveiller, c'est est-ce que le carnet de commandes remonte et est-ce qu'ils vont être en capacité de retrouver de la croissance et du cash flow sur 2027 et sur 2028. Oui. Si c'est le cas, par contre, effectivement, il y a un gros potentiel de rebond.
C'est ça, effectivement. En tout cas, Alpha Value débute donc sa recommandation à vendre. Tommy, pour Alpha Value, en fait, Vusion va connaître une baisse de son activité en 2027 tout en consommant lourdement la trésorerie dès cette année. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alpha Value ou plutôt avec l'optimisme de Berenberg dont nous faisait part Thibault à l'instant? Vous êtes dans quel camp là ce soir, Tommy?
Nous, on est plutôt de la team Alpha Value. Enfin, on est d'accord avec eux par rapport à cette consommation de cash. Il devrait consommer 220 millions d'euros de cash, c'est plus de 10% de la capitalisation boursière. Et il faut savoir que sur les trois dernières années, justement, la génération des flux de trésorerie disponibles était apportée justement par les avances de Walmart. Et aujourd'hui, Walmart, c'est 70% du chiffre d'affaires et ça va se couper à fin 2026. Donc forcément, on se pose des questions sur la génération de free cash flow futur et c'est comme ça qu'on valorise une entreprise. Principalement, donc voilà. On attend des relais de croissance, comme le disait Thibault, les prises de commandes pour 2027 et au-delà. Mais pour l'instant, voilà, on va pas beaucoup de remplaçants aussi gros et imposants avec des poches aussi profondes que Walmart.
Vusion ce soir terminant en net repli. Alors Romain aussi va nous donner son avis graphique. On est à 121 € ce soir sur Vusion. Quel potentiel pour la suite, Romain?
On préserve un niveau de support important, c'est 120,20. Ceci dit, le mouvement de baisse du jour est lourd. Il se fait avec des volumes qui sont trois fois supérieurs à la moyenne des jours précédents. On revient taper ce support. Et puis surtout, on avait tenté de réactiver la dynamique haussière il y a quelques séances et on l'invalide ici. Donc, c'est pas un très bon message, effectivement, graphiquement. Il faut absolument préserver ce niveau de 120,20 pour réactiver la dynamique haussière. C'est le plafond de verre est à 144,50.
Et les banques américaines qui continuent de publier, on peut en dire un mot aussi. Morgan Stanley annonce une hausse de son bénéfice trimestriel porté par les activités de banques d'investissement. Ce titre Morgan Stanley, il est en baisse, il était dans le vert il y a quelques instants. Finalement, il vient de basculer légèrement dans le rouge à moins 0,8. Puis alors BlackRock, pour le coup, qui rayonne aujourd'hui, 7% de hausse à Wall Street porté par ses actifs sous gestion trimestriels, là aussi meilleur qu'attendu. Pour l'instant, dans les financières américaines, tout va plutôt bien, Thibault.
Bah, tout va bien. La bourse monte, les introductions en bourse sont présentes, les taux sont en hausse. J'ai envie de dire que tout est aligné pour le secteur financier, notamment aux États-Unis. Donc, pour l'instant, à se laisser porter.
Ouais. Vous choisissez quoi là comme stratégie d'investissement pour le deuxième semestre par rapport au premier? Des différences, pas de différences?
Alors la thématique globale IA forcément va perdurer, la partie matières premières va perdurer aussi. On va vraiment surveiller les différentes publications et les carnets de commandes des différentes boîtes. Moi je suis très intéressé par tout ce qui est ESN qui ont vraiment beaucoup baissé et on va vraiment regarder ce qui se passe de près dans les ESN. Est-ce que elles vont subir l'impact intelligence artificielle ou est-ce qu'elles vont on va dire un petit peu sauver les meubles et relancer la croissance dans les prochaines trimestres, mais je trouve que c'est assez intéressant à suivre d'un point de vue extérieur.
Merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu présent ce 15 juillet. Thibaut François en plateau, Fastea Capital. Salut Thibaut, un grand merci à Tommy Douziège aussi depuis les bureaux de Zone Bourse et bien sûr à Romain Dobry qui nous accompagnait depuis Bourse Direct. Ce soir donc la clôture, vous l'avez vécu en direct, plus 0,19% pour le CAC, presque une séance pour rien, 8382 points, nouveau débrief de la séance et l'ensemble de l'actu économique du jour, c'est à suivre avec Erwan Maurice dans un instant. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.